Bien, il est 10h juste. On va donc entamer ce dernier cours de l'année et qui est la suite donc, de ce qui a été commencé la fois dernière, toujours dans ce cadre qui était le titre d'ensemble du séminaire, écrire, publié à l'époque moderne et avec un intérêt pour des textes qui franchissaient les frontières. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps de suivre l'analyse qui aurait été d'analyser les traductions, en particulier en anglais, des essais de Montaigne d'une part et d'autre part des ouvrages qu'il incorpore en les mentionnant ou non à l'intérieur de son propre texte. Vous vous souvenez que j'avais donc commencé une analyse d'un des textes les plus commentés de toute l'histoire de la littérature, si on en considère que les essais sont de la littérature, et qui est le chapitre 31 des Cannibales de Montaigne. On en avait commencé la fois dernière la lecture pour arriver jusqu'à ce point où, posant la question du rapport des anciens avec le Nouveau Monde, Montaigne récusait l'idée que l'on pouvait, selon laquelle on pouvait assimiler le monde nouveau découvert avec soit l'Atlantide telle qu'elle est décrite dans un des dialogues de Platon, soit l'île des Carthaginois qui apparaît dans un texte d'Aristote, mais plutôt d'un pseudo Aristote. Le raisonnement en est là lorsque Montaigne reprend le cours de son analyse et entame, et je lis cette partie, « Or je trouve, cet homme que j'avais été un homme simple et grossier après avoir discuté et Platon et le pseudo-Aristote, Montaigne revient à son commencement, c'est-à-dire cet homme qu'il a eu avec lui pendant un certain temps, matelot, marchand, qui avait passé 10 à 12 ans sur la terre de la France antarctique, seule mention géographique donnée par Montaigne dans le début de l'essai. Cet homme que j'avais était un homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures. Ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l'allonge et l'amplifie. Où il faut un homme très fidèle ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'ait rien épousé. Le mien était tel et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Donc vous voyez qu'ici la discussion, elle porte sur les conditions de ce que Montaigne désigne comme un véritable témoignage. Et on pourrait éclairer ce texte en le mettant en rapport avec un livre d'un collègue américain, Stephen Shapin, qui a pour titre « Social History of Truth », une histoire sociale de la vérité, un livre publié en 1994, et qui étudie les différents critères de l'accréditation du vrai, tels qu'on peut les rencontrer, soit dans les textes de philosophie, soit plus encore dans les textes de philosophie naturelle. Le point fondamental de Montaigne est de récuser toutes les formes classiques d'accréditation de la vérité. Il a récusé auparavant l'autorité nécessairement reçue comme vraie des anciens, et c'est les deux passages où il met en question Platon ou le pseudo-Aristote, et il leur oppose cet homme que j'avais, c'est-à-dire un témoignage au vif contemporain, opposé à une autorité scripturaire des anciens. Il récuse aussi une autre modalité d'accréditation du témoignage qui domine l'époque moderne, que l'on trouve dans tous les travaux des historiens des sciences sur les XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire l'accréditation du vrai par le témoignage aristocratique ou princier. Ceux qui n'ont pas intérêt dans une vérité quelle qu'elle soit, qui par cette distance, ce désintérêt, cette absence d'intérêt, peuvent être crus. peuvent être considérés comme des témoins qui ont valeur d'authenticité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses expériences ou expérimentations en philosophie naturelle supposent comme public qui va en garantir la vérité les aristocrates ou le prince lui-même. Montaigne oppose à cette idée d'une hiérarchie parallèle entre la condition sociale et la crédibilité, il oppose le vrai qui est lié immédiatement au témoignage des gens simples, grossiers. Le mot simple, vous l'avez entendu, revient deux fois dans la description de l'homme qui était avec lui et qui donc doit être cru parce qu'il a été témoin direct. C'est donc un deuxième front d'opposition entre cette simplicité sociale et intellectuelle opposée à la fois à l'autorité scripturaire des anciens et à la parole vraie qui serait fondamentalement la parole aristocratique. Et puis il l'oppose à un troisième élément, à une autorité savante de son temps, les fines gens, c'est-à-dire ceux qui, loin de l'observation directe, portent une forme de savoir qui est en fait altération de la vérité, pour deux raisons. C'est le nombre de phrases, cet homme n'avait rien épousé, n'avait épousé aucune cause, donc il n'avait pas de biais ou de préjugés dans le témoignage, et c'est d'autre part, et les mots ici sont choisis précisément par Montaigne, contre toute forme de savoir exprimé à travers la construction rhétorique du discours, que l'on retrouverait avec les mots de au vrai, ils ajoutent des gloses, ils amplifient, selon la technique de l'amplificatio, la matière de la vérité, et qu'il considère plus importante la vraisemblance rhétorique que le vrai des réalités. Donc c'est contre ces trois formes classiques, héritées, contemporaines, d'accréditation du vrai, que Montaigne met en avant cette puissance de vérité qui est dans le témoignage direct des esprits simples et grossiers qui ont été confrontés à la réalité dont il parle sans ni l'amplifier, ni la gloser, ni l'altérer. Et c'est à partir de ce fondement qu'enchaîne Montaigne. Ainsi, je me contente de cette information, celle qui lui a été donnée par cet homme simple et grossier, plus les matelots ou les marchands qui ont voyagé ou séjourné dans la France antarctique, que cet homme lui a fait rencontrer, d'anciens camarades ou compagnons de voyage. Ainsi, je me contente de cette information sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets, car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique. De ce vice sourdent plusieurs grandes incommodités. C'est donc l'application sur le savoir sur la France antarctique de ce que Montaigne a posé comme principe, le primat du témoignage simple sur l'autorité scripturaire des anciens ou de la rhétorique, qui est mis là en œuvre avec cette supériorité donnée pour l'information au sens fort. C'est le sens d'une enquête, d'une recherche, c'est presque un sens judiciaire. Il se contente pour cette information de ce témoignage, ou de ces témoignages des simples et grossiers, qu'il oppose à une des formes de ce savoir savant qui altère et qui est le savoir des cosmographes. Ici, on a une allusion précise qui est rendue déchiffrable pour le lecteur du temps par « mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine », ce à quoi ce qui est la, l'auteur évoqué par Montaigne à travers ça est André Thévet, dont j'avais mentionné déjà le nom la fois dernière, qui a été en 1575 auteur d'une cosmographie universelle. Et le livre qu'évoque Montaigne, qui était peut-être celui de la compétence propre indûment étendue par Thévet, était une cosmographie de Levant, qui décrit entre autres la Palestine, qui était un livre que Thévet a publié à Lyon en 1554, vingtaine d'années avant la cosmographie universelle, qui était fondée sur un voyage fait par Thévet en Orient, et en particulier en Palestine, entre 1549 et 1552. En fait, on le pense rédigé par Belforêt, qui est pour Montaigne la manière d'indiquer cette amplificatio indu d'une connaissance supposément directe d'un territoire particulier, un lopin, au sens à la fois de morceaux de terre et de fragments, qui est transformé par la cosmographie universelle en un savoir illégitime et qui, en fait, sous les apparences du savoir savant, ne fait que réintroduire ce que chacun sait, c'est-à-dire ce savoir commun et vulgaire qui est placé au début de l'essai lorsqu'il oppose la voix avec un E de la raison à la voix commune avec un X. Et donc, du coup, sous les apparences du savoir érudit et savant, se trouvent en fait transmises les vérités connues par chacun. C'est donc une première réflexion fondamentale sur les conditions d'accréditation de la vérité et sur les conditions du témoignage. Une fois posé cela, Montaigne, comme souvent dans cette style que j'ai mentionné, qui est faite de digression, de retour en arrière, de reprise d'un thème abandonné par, à travers des parenthèses, qui pourrait renvoyer, pas nécessairement, mais comme, d'une manière assez sûre, à une forme orale de composition, à la dictée du texte des essais, et en tous les cas, une fois peut-être abandonné cette pratique, à la volonté de produire des effets d'oralité pour le lecteur, comme s'il y avait une conversation entre les protagonistes des essais et entre les essais et leurs lecteurs. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Le lecteur peut être un peu surpris, puisqu'il dit, pour revenir à mon propos, et ce propos, c'est cette nation. C'est la première mention dans l'essai 31 d'une nation qui a été identifiée seulement par une désignation géographique au commencement, c'est-à-dire la référence à la France antarctique en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France antarctique, mais dont j'ai raconté. Rappeler rapidement la fois dernière les étapes de cette expédition de Villegagnon sur les côtes du Brésil, à la fois pour lancer défi à la présence espagnole et portugaise, et d'autre part pour créer dans cette colonie une sorte de cité réconciliée entre le protestant, côté duquel inclinait Villegagnon, et puis aussi catholiques, comme par exemple Thévet, qui était l'aumônier de cette entreprise, et vous vous rappelez, avec l'appel un peu plus tard des protestants de Genève, 14 protestants, 2 pasteurs, et parmi les protestants, Jean de Léry. Donc ces nations, cette nation n'est pas nommée. Elle est juste référée à cette mention territoriale de la France antarctique, et elle ne sera jamais nommée. Dans l'essai des cannibales, ces nations ne sont désignées ni comme les Amériques, quand on l'employait pour désigner les peuples, ni comme les Indiens, ni même comme le nom qui, dans la littérature qu'on va étudier plus tard, les désignait, c'est-à-dire les Indiens Tupi ou Tupinamba, qui sont ceux de la région de la baie de Guanabara, de Rio. Et ne sont pas désignés non plus comme cannibales, à aucun moment dans les essais, même s'ils sont décrits comme tels, mais le mot cannibale n'apparaît qu'au titre de l'essai 31. Ce qui est intéressant et qui pourrait ouvrir la voie d'ailleurs à la discussion sur les traductions de Montaigne, par exemple en anglais, c'est l'emploi du mot « nation ». L'emploi du mot « nation » au XVIe siècle peut être considéré comme ordinaire, mais en fait, il charrie avec lui deux types de références. L'une qui serait possiblement dépréciative, venant de l'Ancien Testament, où dans les traductions « nation » désignait les idolâtres opposés au peuple élu, ce qui restera dans certains emplois, si on pense par exemple au XVIe, XVIIe, l'utilisation en portugais de Nação, qui désigne les juifs convertis, et les populations maranes converties au christianisme et souvent, toujours suspectées d'une fausse ou incomplète ou dissimulée conversion, qui renverrait à la continuité de la pratique de la loi de Moïse. Mais il y a un autre sens, qui est sûrement celui qui est plus présent dans la tête de Montaigne, où les deux venant se coïncider l'un avec l'autre, qui est que « nation » est un mot du vocabulaire des universités. L'université de Paris, depuis le XIIe, XIIIe siècle, est organisée en nation, qui rassemble les étudiants qui partagent, non pas nécessairement la même souveraineté, enfin, qui n'appartiennent pas nécessairement à la même souveraineté, mais qui partagent la même langue. Ou « nation » est aussi un mot du commerce, puisqu'il désigne les marchands dans un pays étranger. Et dans les deux cas, ce que l'on voit, c'est l'idée d'une communauté structurée, organisée. C'est pour ça que je disais que la traduction est ouverte. Si vous lisez l'essai en anglais, vous voyez qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la traduction, particulièrement de Floriot, a respecté « nations », mais que les traductions modernes emploient très souvent « people », ce qui fait perdre, évidemment, cette idée impliquée dans une notion comme celle de « nation », c'est-à-dire d'une communauté organisée, structurée, qui partage la même langue et qui partage la même origine géographique ou nationale au sens moderne. Mais le sens moderne n'est qu'un élément dérivé et second par rapport à ce sens plus fondamentalement linguistique. Donc on voit que cette nation n'a rien de barbare et de sauvage, et Montaigne déplace sur la nation de la France antarctique ce qu'il a dit du rapport des Grecs aux Romains en ouverture de l'essai. C'est-à-dire que l'on considère comme barbare ou sauvage ce qui n'est pas de sa propre usance et opinion, et avec la même le parallèle, et que, comme vous vous souvenez, les deux ou trois textes qui sont référés au début de l'essai montrent que les Grecs, partageant ce préjugé, sont obligés de le réviser lorsqu'ils rencontrent l'organisation qui n'a rien de barbare des armées ou des camps romains, et de la même façon, en parallèle, les Français ou les Européens doivent reconsidérer ce qu'ils désignent comme barbare ou sauvage lorsqu'ils sont confrontés avec la réalité de la nation qui habite la France antarctique. Et à partir de ce moment-là, trois matrices vont être mises en place pour décrire cette nation. On pourrait dire que la première est une figure d'inversion, une figure de monde à l'envers, structure à la fois rhétorique et iconographique fondamentale pour les XVIe, XVIIe siècles. La deuxième est une référence antique, c'est-à-dire celle de l'âge d'or, et la troisième serait plus proprement topographique, au sens de ce que voulait dire Montaigne lorsqu'il opposait une nécessité d'une topographie qui ne décrit que le lieu qui a été réellement connu à une cosmographie qui est une extension indue fondée sur des compilations et non pas sur des observations du savoir. Alors, la première figure qui est employée, comme je disais, figure d'inversion, figure de monde à l'envers, est fondée sur l'idée qu'il faut en quelque sorte échanger les positions entre ce qui est considéré comme barbare ou sauvage et ce qui est son contraire, c'est-à-dire ce qui est naturel, et même si le mot n'est pas employé par Montaigne, ce qui est considéré comme civilisé. Je continue la lecture. « Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. » Donc, le chiasme qui est mis en place, c'est l'idée qu'on appelle fruits sauvages ceux qui sont en fait naturels et que l'on devrait appeler sauvages ceux qui sont le résultat de l'artifice, de la culture ou l'agriculture, de l'abattardissement du naturel pour complaire au goût de ceux qui les cultivent et de ceux qui les mangent. Et à partir de là, Montaigne amplifie ce premier chiasme qui est dans l'ordre de la nature. Les fruits sauvages sont en fait naturels et les fruits abattardis seraient ceux qu'il faudrait appeler sauvages. En une amplification assez classique sur la supériorité de la nature sur l'art, puisque du côté de la nature, on a la pureté, la beauté, et que du côté de l'art, on a l'artifice, l'impuissance à être identique à la nature et la surcharge. Et dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux, en 1588, Montaigne ajoute, pour une possible réédition, une référence à Platon. « Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature, par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, c'est-à-dire la nature ou la fortune, les moindres et imparfaites par la dernière. » Donc, à partir de, à la fois, cette réflexion philosophique qui vient d'être nourrie par sa référence dans l'exemplaire de Bordeaux à Platon, et à partir d'une expérience qui en partie est liée à ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire Montaigne écrit les essais alors qu'il est le maître d'un domaine, la gestion d'une maison, et donc cette référence au monde naturel, des fruits, des produits, des récoltes, ne lui est pas étrangère. À partir de ce chiasme qui porte sur la sauvagerie ou l'abattardissement des fruits naturels, l'emploi le déplace sur ces nations. « Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres, mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plutôt du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. » Là, vous voyez, c'est le même chiasme que ces nations sont considérées comme barbares, mais en fait, elles sont naturelles, elles sont gouvernées par les lois naturelles, elles sont dans l'état premier de leur naïveté originelle, et comme dans la première figure d'inversion, ce sont les lois des contemporains, des Européens, qui en fait sont abattardis et abattardissent, et qui pourraient même si le raisonnement n'est pas là explicite, ou devrait être considéré comme barbare. On a une première matrice de description qui n'est ni topographique ni historique, mais qui renvoie en quelque sorte au croisement dans l'écriture de Montaigne entre une comparaison, les fruits, les hommes, à un chiasme où les propriétés sont inversées d'une situation à une autre, ce qui est sauvage ou barbare est en fait naturel, et ce qui apparaît comme immédiat est en fait sauvage ou abâtardi, et finalement, bien entendu, une hiérarchie, puisque si l'on se réfère au principe platonicien de la supériorité de la nature et du naturel sur toute forme d'art, donc d'abâtardissement, et les fruits dits sauvages et les nations dites barbares seraient dans une position de supériorité par rapport à ceux qui les désignent comme tels. Ça, c'est la première matrice de description. La seconde matrice de description est enchaînée ou impliquée par cette idée qu'il regrette que cette connaissance ne soit pas venue plus tôt, parce qu'elle aurait été la connaissance d'hommes qui eussent su mieux juger que nous, c'est-à-dire finalement une référence aux anciens. Cette référence aux anciens enchaîne dans sa plume la seconde matrice de description, c'est-à-dire ces nations comme une incarnation de l'âge d'or. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l'aient eu, cette connaissance de ce monde nouveau, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures, de quoi la poésie a embelli l'âge doré, et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se peut maintenir avec si peu d'artifices et de soudures humaines. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat, ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation coisive, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroms mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon inouï. Combien trouverait-il la République qu'il a imaginée éloignée de cette perfection ? Alors ce texte a été très souvent commenté, puisqu'évidemment, il est fondé sur l'idée que la société de ces nations est une figure qui à la fois incarne, mais de manière parfaite, ce qui a été l'âge d'or à la fois dans la fiction de la fable, de la poésie, et dans la proposition, les projets de la philosophie. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, ici, c'est la coïncidence parfaite qui est établie entre les inventions des anciens, poétiques ou philosophiques, les relations des témoins et les réalités de la société ou de ce monde de la France antarctique. Du coup, c'est une récupération des anciens, non pas nécessairement parce que leur autorité doit être suivie en tout, mais parce que ce qu'ils ont pu imaginer ou désirer, imaginer dans la poésie, désirer dans la philosophie politique, se trouve en fait réalisé dans le monde contemporain. Vous avez entendu qu'aussi Montaigne emploie rapidement une référence à ce genre qui est le dialogue avec les morts, aussi, dirais-je, à Platon, donc le dialogue entamé avec Platon, qui est évidemment la référence fondamentale et le texte qui est le plus proche de cette description de l'âge d'or, c'est le texte qui se trouve dans le dialogue de Platon intitulé « Le politique » ou « Politique » et où l'on trouverait une opposition entre l'âge des contemporains, c'est-à-dire l'âge de Zeus et l'âge l'âge d'or, qui était celui du temps où le monde était gouverné par Chronos. Voilà ce fragment qui est au plus près, dont on peut penser que Montaigne, dans une traduction ou une autre, a connaissance. C'est un dialogue où Socrate dialogue avec l'étranger, et l'étranger lui dit « Mais pour revenir à ce qu'on raconte des hommes, voilà comment on peut expliquer que tout ce dont ils avaient besoin pour vivre leur venait spontanément. C'est un dieu qui les paissait, qui les dirigeait en personne, de la même façon qu'aujourd'hui les hommes, qui sont des êtres vivants d'une espèce différente et plus divine, paissent les autres espèces animales qui leur sont inférieures. Comme ce dieu les paissait, les hommes n'avaient pas de constitution politique et ne possédaient ni femme ni enfant, car au sein de la terre, ils remontaient tous à la vie sans garder aucun souvenir de ce qui s'était passé avant. Voilà pour tout ce qu'ils n'avaient pas. En revanche, ils avaient à profusion les fruits que donnaient les arbres et une très abondante végétation, des fruits qui poussaient sans qu'on ait besoin de les cultiver, car la terre les produisait spontanément. Sans vêtements, sans lit, ils vivaient le plus souvent en plein air, car la façon dont les saisons étaient tempérées les préservait d'en souffrir, et leur couche était molle, car elle était faite de l'herbe que la terre produisait à profusion. Tu viens donc d'apprendre, Socrate, le genre de vie que l'on menait sous Chronos. Quant à celui que Zeus, dit-on, dirige, celui de maintenant, tu le connais bien quand tu en as l'expérience. Or, de ces deux genres de vie, serais-tu de taille et d'humeur à décider lequel est le plus heureux ? C'est sûrement le texte le plus proche de la description de Montaigne, mais qui s'appuie aussi sur des fragments d'autres textes, comme un fragment des Lois ou comme évidemment des passages de la République. Dans les Lois, au livre 4, on a toujours avec cette idée de l'âge de Chronos, qui était l'âge d'or, que des démons ont fait régner, mais au sens positif, des démons ont fait régner sur la terre la paix, la pudeur, la liberté, la justice, et ils procurèrent à la race humaine des jours tranquilles et heureux. Après, dans cette longue énumération que j'ai lue, où Montaigne va caractériser ce qui était cet âge doré imaginé ou désiré par les anciens et réalisé par ces nations, on voit bien que la clé de l'énumération est la récusation de tout ce qui produit de la différence, de la distinction, de la domination. C'est aussi bien la référence à la nudité que l'on trouvait déjà dans les lois, ils n'avaient pas de vêtements, sans vêtements, donc qui rend égaux les êtres humains. C'est la référence à l'absence de ce qui peut créer inégalité de richesse, de savoir, de pouvoir, l'inégalité de richesse avec la profusion donnée par la nature, sans activité productrice, inégalité de pouvoir, l'absence de toute institution ou fonction publique, nul nom de magistrat, ni de supériorité politique, et la différence qui peut être produite par l'écrit, par les lettres, puisqu'ici, c'est une société dans laquelle nulle connaissance de l'être, nulle science de nombre, nul contrat. Et évidemment, on sait comment les figures d'utopie des XVIe ou XVIIe siècles reprennent cette idée de l'âge d'or identifié à une égalité parfaite qui peut aussi supposer la récusation, le refus de la culture de l'écrit, supposé introduire à la fois la scripturation des inégalités et d'autre part des différences entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui en sont les victimes. Et l'autre trait, en dehors de cette nudité, qui est la matrice par excellence de l'égalité, cette égalité de richesse, de savoir et de pouvoir, c'est évidemment la communauté parfaite, nul respect de parenté que commun, la reprise de l'idée platonicienne qu'il n'avait ni fils ni épouse, et qu'il y a donc une sorte de absence des liens qui créent, là aussi, de la différence. Et la conséquence, c'est évidemment que c'est un lieu où s'incarne la parfaite vertu, puisque tous les vices sont rapportés à cette inégalité des richesses, de là l'envie l'avarice. Et ces vices sont aussi rapportés à cette inégalité des conditions qui entraînent les autres vices mentionnés, trahison, mensonge, dissimulation. C'est donc une deuxième matrice. La première était presque purement formelle, c'est-à-dire une modalité d'inversion qui se référait au monde naturel pour se déplacer sur le monde social. Cette deuxième matrice est une matrice philosophique et historique, c'est-à-dire l'incarnation d'un âge d'or qui fait que le monde de la France antarctique est le monde réalisé de l'âge d'or imaginé et désiré par les anciens. La troisième matrice de description est-elle topographique, ce que m'ont dit mes témoins. Et là, je ne vais pas lire le texte en le suivant pas à pas, mais ce que l'on voit, c'est simplement le début. Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade. Cette idée du tempéré qu'on retrouvait, qui est présente chez Platon, une des conditions de cette absence d'activité productrice sauf de oisiveté, est la bienveillance de la nature. Et là aussi, la description de la France antarctique, reprise par Montaigne d'après ses témoins, est celle d'un pays où toute la nature et le climat est plaisant et bien tempéré et du coup permet est la condition de possibilité de cette réalisation de l'âge d'or puisque les ressources naturelles y sont en abondance. Ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Et d'autre part, la santé des habitants y est parfaite. Il est rare d'y voir un homme malade. Et ils m'ont affirmé, les témoins, n'en y avoir vu aucun tremblant, édenté ou courbé de vieillesse. Et la description qu'on peut appeler comme ethnographique, mais en fait ce serait plutôt cette topographie transmise par la parole des témoins, ensuite s'oriente vers la description des logements, des maisons, des bâtiments, vers la description de l'alimentation, où ils ne connaissent ni vin ni pain, la description des occupations, qui est organisée selon un modèle là aussi classique, rhétorique et iconographique, des degrés des âges, les jeunes font à la chasse, les femmes prépare la boisson, les vieillards enseignent la morale, une morale d'ailleurs qui est réduite à deux principes, la vaillance contre les ennemis et l'amitié avec leurs femmes, pour s'arrêter aux croyances, avec le trait intéressant qui est, dans les croyances, d'extraire ce qui pourrait être comme des préfigurations d'une foi chrétienne, puisque ce qui est mentionné est seulement ils croient les âmes éternelles et celles qui ont bien mérité des dieux être logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites du côté de l'Occident. Donc une sorte de préfiguration d'une croyance en l'immortalité de l'âme et en une théologie de l'opposition entre paradis et enfer. Et la description s'achève par l'importance donnée par des prophètes, avec l'idée que lorsque les prophètes sont de faux prophètes qui induisent dans l'erreur, ils le payent de leur vie. Alors, la question qu'on peut poser, c'est la question sur les fondements de cette description, de cette topographie de la France antarctique. Il est clair qu'elle repose, comme le Montaigne le répète, de manière permanente, sur les relations, les témoignages des simples qu'il a rencontrés, l'homme, les matelots, les marchands. Elle repose aussi sur, pour des détails, mais intéressants, sur une certaine forme de présence de la France antarctique dans l'environnement de Montaigne. D'une part parce qu'il possède des objets qui ont été apportés depuis le Brésil. Il mentionne par exemple, il se voit en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leur lit, de leur cordon, de leurs épées, bracelets de bois, de quoi ils couvrent leurs poignets au combat, et des grandes cannes ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur danser. Donc, comme dans une sorte de cabinet de curiosité, Montaigne possède certains de ces objets qui ont été rapportés du Brésil. Donc, la topographie s'appuie sur une sorte de curiosité ethnographique. Mais il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine forme, même très limitée et fragmentaire, de l'expérience de cet autre monde. Au lieu de pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit. J'en ai tâté, le goût en est doux et un peu fade. D'ailleurs, là aussi, un de ces matelots ou marchands a rapporté ce pain qui n'en est pas un, nations de la France antarctique, et Montaigne l'a goûté. Ce qui va créer une autre dynamique dans l'essai. Ce n'est pas seulement les différentes modalités de venue de la France antarctique dans l'expérience de Montaigne. D'abord par les relations orales des témoins, mais aussi par la présence de ces objets ou de cette expérience de leur alimentation. Mais est-ce que l'on peut se contenter de, d'une part, cette écoute de relations, et d'autre part, de cette présence ethnographique d'objets ou de pain, entre guillemets? Il semble aussi, évidemment, que Montaigne s'appuie sur des lectures et sur des images. Et c'était pour cela que la question de la date de l'essai a beaucoup d'importance, puisque ce qui est important, c'est de repérer ce qui pouvait être accessible à Montaigne, disons jusqu'en 1579, si on admet qu'avec l'essai sur l'éducation, l'essai sur les cannibales est un des derniers qui ait été, sinon composé, mais du moins achevé, avant la remise du manuscrit à Simon Millanche pour la publication imprimé. Je vais concentrer cette analyse, c'est-à-dire sur ce qui était disponible en termes d'iconographie et en termes de description pour Montaigne, sur évidemment le passage le plus fameux de l'essai 31 du premier livre, c'est celui qui se rapporte au titre, c'est-à-dire des cannibales, le problème de l'anthropophagie. D'ailleurs, dans le texte, ce qui est le thème est traité de manière extrêmement brève et elliptique. Montaigne décrit les guerres des nations de la France antarctique pour en arriver au traitement des prisonniers. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de route et d'effroi, ils ne savent que ce que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins, des morceaux, à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. Alors cette description elliptique en quelques phrases. Évidemment, elle, où l'on voit qu'il y a l'idée du prisonnier bien traité, cette corde qui est l'attache et qui est tenue par celui qui l'a capturé et son plus proche ami, cette idée de l'assommer à coups d'épée de bois, il le rôtisse et le mange en commun, et finalement, la raison qui est donnée à ce cannibalisme, qui n'a rien d'alimentaire, mais qui est une raison liée à la volonté de vengeance. La question qu'on peut poser, c'est celle des descriptions préalables sur lesquelles Montaigne peut s'appuyer. Sans entrer dans la question de la présence de la figure du cannibale dans la tradition occidentale. Il y a un livre très intéressant, très important, très bien fait, de Franck Lestringant, « Le cannibale, grandeur et décadence », un livre publié en 1994, qui montre que le thème est introduit par le voyage de Colomb et par les décades de Pierre Martyr d'Anguilla, mais qui s'applique alors aux Indiens arawaks des îles des Caraïbes, que le thème se déplace ensuite dans l'iconographie des Portulans ou des cosmographies pour se fixer sur le Brésil avec une distinction géographique qu'on avait rencontrée lorsque j'ai évoqué l'Atlas de Lotestu la fois dernière, de 1556, entre le pays des cannibales, qui est supposé plutôt dans le nord-est, dans le Maranhão, et les populations qui sont celles des côtes, et en particulier de la baie de Guanabara, les populations Tupinamba. C'est donc là une présence, mais ce n'est pas ça le plus précis. Ce qui est ici en question, ce n'est pas l'idée qu'il y a des cannibales, c'est la description du rituel qui est lié au traitement du prisonnier et ensuite à son massacre. Il est peu probable que... il y a trois auteurs que l'on peut évoquer, qui sont constamment évoqués dans la littérature abondante sur cette question, mais qui ont des statuts, à mon avis, très différents par rapport au texte de Montaigne. Le premier, il est très peu probable que Montaigne l'ait connu. C'est pourtant le premier récit qui est à la fois un récit d'expérience personnelle et un récit, on va dire, ethnographique de cette pratique du cannibalisme. C'est le récit de Hans Staden. Et d'ailleurs, pour une fois, je n'ai pas l'habitude des PowerPoints, mais on peut peut-être utiliser aujourd'hui ce PowerPoint. Au moins, vous trouvez le texte. Alors, on m'a dit appuyer sur deux pour que ce soit un peu plus visible. Ce texte de Hans Staden, qui était un marin allemand qui s'était embarqué sur des navires portugais faisant le commerce du bois de Brésil et qui, après un naufrage, est capturé par les Indiens et plusieurs fois menacé d'être mangé. Alors, le titre de du livre publié à Marbourg en 1557, et si on traduit littéralement, « Véritable histoire et description d'un pays habité par des hommes sauvages, nus, féroces et anthropophages, situé dans le nouveau monde nommé Amérique. » On voit les Wilden, Nacketen, Grimmigen, Menschfresser. Donc, sauvage, nu, féroce, anthropophage. Et quand le texte a été publié en traduction française par Métayer en 2005, c'est le titre « Nu, féroce et anthropophage » qui a été retenu. Et d'ailleurs, avec ici, dans cette... pour le PowerPoint, il manque « H » après le « C » de « Menschfresser », les mangeurs d'hommes. Alors... Ce texte comporte, après une première partie qui est un récit des mésaventures de Staden, une deuxième partie qui a pour titre « Relations véridiques et précises des mœurs et coutumes des Tupinamba, chez lesquels j'ai été prisonnier et dont le pays est situé à 24 degrés au-delà de la ligne équinoxiale, près d'une rivière nommée Rio de Janeiro ». Il y a donc les deux aspects, un aspect de récit d'expérience et un aspect de description. Et c'est là où on trouverait le chapitre 28, qui a pour titre des cérémonies avec lesquelles les sauvages tuent et mangent leurs prisonniers, quatre gravures qui correspondent plus ou moins aux quatre séquences de la description faite par Staden. Vous le voyez, la première ici, c'est ce prisonnier qui est tenu par la corde avec cette masse qui va l'assommer au-dessus de la tête, et déjà un feu qui est allumé. La deuxième image est celle du prisonnier porté, brûlé, cuit sur ce feu, avec la présence des Indiens et Indiennes Tupinamba. Ici, c'est la scène du repas des femmes et des enfants qui, d'après Staden, partagent une sorte de bouillon et ensuite dévorent les entrailles, la chair de la tête et la cervelle et la langue. Désolé de ces détails, mais c'est ceux du récit. Et la quatrième image est celle qui pourrait accompagner, enfin s'inscrire comme celle du moment où la tête est bouillie dans un chaudron. Alors, quatre images qui vont fixer une sorte d'iconographie et qui sont assez proches, évidemment, de la description très brève que reprend Montaigne, puisqu'on a à la fois le prisonnier lié par les cordes, le corps découpé en morceaux et cuit, et puis le fait qu'il le mange en commun. La question, là, est que il est très peu probable que Montaigne connaissait ce livre parce que les éditions en ont été nombreuses, mais seulement en allemand. Il y en a trois en 1557. Et le livre a été traduit, mais traduit en hollandais trois fois avant la fin du XVIe siècle, 1558, 63, 95. Il a été traduit en latin, mais seulement en 1592, lorsque Théodore de Brie met ensemble le récit dont je parlerai plus tard, celui de Jean de Liry, avec le récit de Staden, dans le volume qui s'appelle « America Segunda Pars », qui est le second volume sur des récits de découvertes publiés par De Brie. Vous vous souvenez que cette publication joue un rôle très important pour la mise en circulation du texte de Las Casas, traduit en latin et avec les 17 image qui l'accompagne. Il est donc peu probable que Montaigne ait lu directement Staden, peut-être d'une manière ou d'une autre, il avait une connaissance de ce récit qui était devenu fameux et célèbre, mais qui ne sera traduit en français ou en italien, langue que lisait Montaigne, tardivement au XIXe ou au XIXe siècle. Donc, il y a en moins une question autour de la possibilité pour Montaigne d'avoir eu accès à Staden. Ce qui est certain, c'est une deuxième référence, c'est la référence à la connaissance qu'il avait de André Thévet et des deux ouvrages de Thévet. Le premier ouvrage de Thévet, qui était publié en 1557 avec une autre émission en 1558, et qui a, avec la date de 1558, qui a pour titre « Les singularités de la France antarctique », que j'avais mentionné la fois dernière, puisque « France antarctique », qui est l'expression reprise par Montaigne, est entrée dans un vocabulaire ou lexique commun à partir de l'expédition de Villegagnon, du nom qui a été donné à la terre découverte et à la circulation du livre de André Thévet. Le chapitre 40 a pour titre « Comme ces barbares font mourir leurs ennemis qu'ils ont pris en guerre et les mangent ». Ce texte des singularités de la France antarctique, donc, qui est de 1557-1558, déploie les mêmes séquences que Staden, mais évidemment sans nécessairement qu'il y ait le moindre rapport, puisqu'en plus là il y a synchronie des deux publications, le fait que vous vous souvenez que Thévet a passé quelques mois dans le fort Coligny, puisqu'il avait accompagné Villegagnon. La question donc fondée sur ce que Thévet dit avoir observé ou sur des récits qui lui ont été faits, et qu'on trouve un ordre de séquence qui est très proche de celui que Montaigne va donner, et peut-être qui en est, avec quelquefois le vocabulaire lui-même, très proche. La description que fait Thévet commence avec l'idée que le prisonnier est fort bien traité, et vous souvenez le texte de Montaigne, bien traité. Il est à la fois doté d'une épouse et qu'il est en même temps très bien nourri, engraissé par ceux qui l'ont capturé. Ensuite, il y a le parallèle avec l'appel aux connaissants chez Montaigne et l'appel à tous les amis qui doivent venir pour ce repas commun. Puis, le jour du massacre, quelque chose est ajouté par Thévet à la description que j'ai donnée de Montaigne, qui est que le prisonnier est couché sur son lit et enferré, tenu par des fers, et il chante nuit et jour des chansons qui sont autant de défis lancés à ceux qui l'ont capturé et ceux qui ont annoncé qu'ils allaient le rôtir. Cela, c'est donc dans le texte de 1557, des singularités de la France antarctique, où Thévet recopie une de ses chansons qu'il a entendue, et la suivante est celle-ci. Les margégéasques, c'est-à-dire des nations qui sont ennemies traditionnelles des Tupinambas et qui sont dans ce cas-là amies du prisonnier qui a été fait, les Margajas ou Margageas, nos amis, sont gens de bien, forts et puissants en guerre. Ils ont pris et mangé grand nombre de nos ennemis, les ennemis qui sont ceux qui ont capturé le prisonnier. Aussi me mangeront-ils, ces ennemis, les Tupinambas, quelques jours, quand il leur plaira. Mais de moi, j'ai tué et mangé des parents et amis de celui qui me tient prisonnier. Et il termine sa chanson par « Nos amis nous vengeront ». C'est-à-dire cette sorte de circularité d'une anthropophagie qui est directement liée à l'exercice de la vengeance et qui est située à l'intérieur de la guerre. Donc, la suite... Alors, ici, on peut aussi trouver le fait que, d'une manière ou d'une autre, Montaigne, connaissant ce texte, peut s'en inspirer, puisque... Un peu plus loin dans l'essai 31, non pas au moment où il décrit le traitement des prisonniers et le rituel cannibale, lui aussi mentionne une chanson qui lui a été apportée à partir d'une transcription faite par l'un de ces hommes simples et grossiers qui l'ont informé sur la France antarctique et qui a le même sens, c'est-à-dire une chanson à la fois de défis par rapport à la mort annoncée, de défis par rapport à l'ennemi, et qui, en même temps, se réfère. Il y a un texte de l'anthropologue Métro sur la description et le sens symbolique de cette anthropophagie, se réfère à l'idée d'une circularité de la vengeance. Voilà ce qu'écrit Montaigne. « J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait. Qu'ils viennent hardiment et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. » Et là, il cite, « Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres. Pauvres folles que vous êtes, vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. » Commente Montaigne. Donc, ce n'est pas la même chanson, mais c'est le même modèle de comportement qui est décrit à travers ces deux chansons, de défi à la mort, défi à l'ennemi, et aussi circularité de la vengeance, qui entraîne sans doute, dans les deux cas, l'idée qu'en mangeant l'ennemi, d'une certaine manière, ils mangent leurs propres ancêtres, puisque l'ennemi a lui-même opéré cette même anthropophagie rituelle. Et pourquoi Montaigne écrit « Invention qui ne sent aucunement la barbarie » puisque, évidemment, ce rituel-là, anthropophage, on le trouverait dans un certain nombre de textes anciens, de tragédies classiques, comme le Thieste de Sénèque. utilisé par exemple dans le Titus Andronicus de Shakespeare. Et donc du coup, ce qui paraîtrait barbare est en fait déjà présent chez les anciens. Si on suit la description de Thévée, on voit ensuite qu'il y a le prisonnier qui est garrotté de cordes, comme le mot reprend Hypermonté, mais là, il est banal. Mais il y a aussi le fait qu'il est assommé comme un pourceau, puis le corps est dépecé, le sang sert à baigner les enfants, et ensuite il est, comme l'écrit les singularités de la France antarctique, cuit à leur mode. Les membres tranchés, les entrailles dévorées par les femmes. Et on trouverait dans la France antarctique, le texte de Thévée de 1557-58, la clé, mais à suggérer plus que développer, qui est la clé de ses comportements et qui est l'idée de la vengeance, puisque le chapitre qui suit, le chapitre 41, a pour titre « Ces sauvages sont merveilleusement vindicatifs ». Et c'est donc cette souci de la vengeance qui serait le fondement de ce rituel anthropophage. Alors, on doit pouvoir rencontrer ici les... Pour terminer peut-être... je vais finir avec les deux livres de TV, cette première partie. On trouve donc les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, Paris 1557. Vous voyez la première scène, c'est-à-dire celle du prisonnier garrotté de cordes qui sont tenues par celui qui l'a capturé et l'autre, avec... Bon, je n'ai pas la compétence ni le temps, mais d'entrer sur les modèles iconographiques qui servent pour l'illustrateur et le graveur. Et la deuxième scène, qui est celle où se trouvent rassemblés dans une même scène, à la fois sur la droite le corps dépecé, sur la gauche les entrailles dévidées par la femme, en arrière-plan de ce, à la gauche les enfants jouant avec la tête du prisonnier, et sur cette sorte de grille des membres du prisonnier qui sont cuits. Et Thévée termine la description dans les singularités de la France antarctique avec l'idée de la distribution des morceaux pour ceux qui n'étaient pas là. En 1575, deuxième texte absolument connu par Montaigne, puisque là il l'attaque lorsqu'il oppose les cosmographies menteuses aux topographies fondées sur l'expérience et le regard. En 1575, au livre 21, dans la seconde partie d'un énorme ouvrage qui est la cosmographie universelle de Thévée, on trouve au chapitre 15 le thème suivant « Moyen tenu à massacrer ceux qu'ils prennent en guerre et quelle prison ils leur donnent ». On a exactement la même structure du récit et les deux mêmes bois gravés. Voilà la cosmographie de 1575. Ce qui est intéressant dans cette première description, où on voit aussi le prisonnier lié, assommé par cette masse et la multitude, puisque Thévée mentionne 10-12 000 personnes qui se rassemblent autour de ce rituel, il y fait un commentaire que vous pouvez lire au bas de la page. D'abord, il y a dans cette édition des rubriques marginales. Ici, c'est « Le prisonnier est tué en la place publique ». Et le commentaire est le suivant. « Et leur laisse-t-on à ceux qui vont être aux prisonniers, qui vont être assommés, démembrés et mangés, les liens qui soient assez forts, tenus à chacun bout par quelques forts sauvages, à la façon et manière que vous pouvez voir par ce présent portrait et figure que je vous ai voulu représenter au naturel, comme ayant vu faire plusieurs d'ici massacres, toutefois à mon regret, mais j'en étais en partie contraint. » Donc vous voyez qu'ici, l'illustration est intégrée dans le discours qu'il a présente, et ce qui est la machine de l'accréditation, c'est une sorte d'autopsie, de voir par soi-même, par délégation. Thévée dit qu'il a vu, et ayant vu, il fait un portrait au naturel, exact de ce qu'il a vu, ce qui amène le lecteur du livre à voir ce qu'il a vu lui-même. Et donc le lecteur est posé dans, est placé dans une position de témoin du fait grâce à cette médiation de la vue. Dans la deuxième image, qui reprend aussi la rubrique « Comment les sauvages rôtissent leur ennemi », et on retrouverait la même image, et même un commentaire parallèle de Thévet, « Je vous ai ci-dessus mis la figure comme il dépièce le corps oxy et massacré, et comme après il le rôtisse afin de contenter le lecteur. » Je ne veux pas dire jusque-là que le lecteur est placé en position d'anthropophage, mais qu'il y a la même mécanique, c'est-à-dire le fait de donner satisfaction, contenter au sens de satisfaire une attente. Et cette attente, c'est celle qui s'est construite quant au régime de la preuve et de l'attestation, c'est-à-dire l'attente d'une preuve qui est donnée par l'autopsie, le voir par soi-même, qui est donnée par la relation immédiate, directe, avec ce qui est l'objet à connaître et qui est médiatisé, évidemment, par l'imprimé, mais un imprimé où doivent se réunir, se confondre l'expérience directe du témoin, en l'occurrence Thévet, ou qui prétend l'avoir été, et de l'autre côté, cette expérience de lecture qui est en même temps une expérience du regard. Donc, il est sûr que le texte de Montaigne est lié, inspiré, habité par la référence aux deux livres de Thévet, 1557, Les singularités de la France antarctique, 1575, La cosmographie universelle, même si, et c'est le paradoxe, elle est évidemment dénoncée dans sa prétention indue à être universelle, mais en même temps recueillie dans ce qu'elle répète, le récit qui était celui du livre publié une vingtaine d'années précédentes. Avant une très brève pause, j'indique que donc la troisième référence, qui est sans doute présente dans le livre de Montaigne, dans l'essai, c'est la référence au texte de Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil, autrement dit Amérique, qui a été publié en 1578. Mais on peut peut-être faire une courte pause, si vous pensez que c'est nécessaire, pour reprendre, disons, à 11h12, dans 5 minutes, parce que la matière est abondante